Alors, les derniers chiffres, dis-je bien, de l'évolution des cas, là, 93. 93 nouveaux cas aujourd'hui. Mais regardez bien, là, depuis mardi, 46 cas mardi, 64 mercredi, 86 hier, 93 aujourd'hui. Vous voyez la montée, la progression. Aujourd'hui, c'est un décès de plus qui est survenu dans les 24 dernières heures et deux autres décès survenus au cours des derniers jours. Dans la dernière semaine, on est à 5733 décès. Mais pendant ce temps, tu regardes les statistiques, les urgences qui débordent à Montréal. Par exemple, au CHUM, tu as 51 civières, tu as 59 patients sur civière. Fait qu'ils sont, ils pètent le nombre de civières qu'ils ont. Ils sont à 116%. Regardez bien ça, là. Un peu, je vais vous en donner un autre. Verdun, tu as 26 civières, tu as 43 patients sur civière. Ça veut dire que les corridors sont pleins de civières à Verdun. Sacré-Cœur, ça pète. Plus de patients que de civières. L'hôpital de Montréal pour enfants, dis-je. Même chose. Maisonneuve-Rosemont. OK? Maisonneuve-Rosemont, tu as 54 civières, tu as 75 patients sur civière. C'est là que se trouve le docteur François Marquis, chef des soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Bonjour, François.
Hey, bonjour.
Content de te retrouver après mes vacances. Alors, d'abord, est-ce qu'il faut s'inquiéter? On n'est même pas encore vraiment dans une deuxième vague et déjà les urgences qui débordent. Quelle lecture tu fais de ça, toi?
Bien, parce que la lecture est relativement simple, c'est que les urgences, là, c'est souvent là que ça déborde, mais c'est un peu... C'est là que ça paraît, mais c'est pas à cause nécessairement d'eux autres. C'est qu'on a plusieurs mécanismes qui arrivent en même temps. La première, c'est qu'il a fallu faire des changements dans tous les hôpitaux, puis les chambres doubles, il y en a beaucoup qui ont été converties en chambres simples, ce qui fait en sorte que le nombre de lits dans l'hôpital a baissé. Il y a plein de personnels qui sont en vacances d'été, alors que les gens continuent d'affluer, ce qui n'arrive pas d'habitude. Donc, moins de personnel. Ce qui fait que j'ai beaucoup de lits qui sont physiquement libres dans l'hôpital que je ne peux pas utiliser pour désengorger l'urgence. On rajoute à ça les patients qui n'ont plus besoin de soins aigus, mais qui sont bloqués à l'hôpital à cause de toutes les règles maintenant dans les CHSLD qui rendent le congédiement des patients et le transfert vers les CHSLD extraordinairement complexe. Et on ramène ça aussi à la première ligne parce qu'il y a beaucoup de ressources de première ligne qui ont été converties en ressources COVID ou en zones chaudes qui ne veulent plus accepter de patients froids, ce qui fait en sorte que les gens se cognent le nez, ils peuvent plus aller dans leur clinique habituelle, vont à l'urgence et une fois rendus à l'urgence, tout bloque parce qu'il n'y a pas de place à l'étage. Chez nous, les salles d'opération fonctionnent au compte-gouttes. J'ai de la place aux soins intensifs. Mais les salles d'opération fonctionnent au compte-gouttes là, à cause du manque de personnel. Les étages, c'est un peu la même chose. Si on met tout ça ensemble puis qu'on étend ça à l'île de Montréal, on a les chiffres qu'on a là.
OK. Tu es rassurant. Et je trouve que les raisons que tu donnes sont les bonnes. Donc, on peut penser, enfin, sont bonnes. On peut penser que au fur et à mesure où le personnel va revenir, il y a des chambres qui vont être réouvertes et donc certains de ces patients qui sont sur des civières à l'urgence vont pouvoir être montés aux étages à ce moment-là.
Exactement. Présentement, on a un problème de fluidité, c'est que vraiment l'affluence à l'urgence est une affluence de type automne-hiver, alors qu'on a du personnel pour une affluence d'été. Fait que c'est un peu bêtement ça, plus les séjours prolongés parce qu'on a de la difficulté à sortir les patients qui peuvent pas retourner à la maison.
Mais ton affluence automne-hiver, est-ce que c'est l'influenza qui commence à se manifester ou c'est des gens qui ont attendu peut-être pour se présenter à l'urgence ou encore d'autres qui, comme tu le disais, n'ont pas accès, par exemple, à leur médecin de famille et se présentent à l'urgence plus tôt, c'est ça?
Oui, bien ça, c'est une partie. Puis encore, là, faut comprendre que tout le retard qu'on a pris pendant la COVID, les gens qui ont eu peur, qui sont pas venus, qui sont arrivés avec des maladies plus sévères, il y a ça aussi. Je veux dire, si on dit que chaque patient, à cause de l'attente, à cause de la peur du COVID puis tout le kit, a eu une hospitalisation d'un à deux jours de plus, c'est un chiffre que j'invente, là, mais ça fait un impact incroyable sur le système parce que ça fait facilement un 10 % de chambres dans les hôpitaux qui sont pas disponibles.
D'accord. Parlons de ce jeune Québécois de 19 ans qui a été, qui est mort de la COVID. Il s'agirait de la première victime du COVID âgés de moins de 20 ans au Québec. Ça s'est passé à l'hôpital Pierre-Legardeur, donc à Terrebonne. Comment tu as réagi quand tu as vu cette nouvelle-là, toi?
Bien, c'est très triste. Mais c'est quelque chose à laquelle on s'attendait, dans le sens où on sait que le virus est un virus d'opportunité. On lui a bloqué de façon assez magistrale l'accès à plusieurs patients vulnérables au CHSLD, etc. Donc, il s'en va là où la population est disponible, c'est-à-dire chez les jeunes. On l'a vu, le taux d'infection chez les jeunes, pour toutes sortes de raisons, dont le fait qu'ils n'ont pas l'air tout à fait de prendre ça au sérieux, a était assez alarmant comme progression. Et à partir de là, c'est rare un jeune qui meurt, c'est rare un jeune qui se ramasse aux soins intensifs, mais ce n'est pas impossible. C'est rare les gens qui gagnent le million à la loto, mais à toutes les semaines, il y en a un. Donc, c'est un peu une loterie maléfique où tu peux tirer la courte paille. Et le message, je pense que c'est triste, mais que ça serve à réveiller les gens en disant « Ce n'est pas parce que tu es jeune que tu es invulnérable. » Et en passant, si tu ne meurs pas, tu pourrais avoir des conséquences sévères, perte de revenus, perte au niveau de l'éducation et même handicap à long terme. Et cet élément-là n'a pas bien encore passé comme message dans la population plus jeune. J'espère juste que cette triste chose-là va leur servir un peu, comme on dit en si bon français, d'un wake-up call.
Oui, oui, effectivement. Parlons du vaccin maintenant. Mm-hmm. Sondage CROP, donc publié par la presse. Alors, 1000 citoyens québécois qui ont été consultés, 35% ont dit qu'ils allaient attendre avant de se faire vacciner. Le jour où on aura un vaccin, là, à peu près le tiers disent « moi, je vais attendre ». Puis il y en a 15% qui disent « non, moi, je me ferai jamais vacciner, je refuserai de me faire vacciner ». Réaction du docteur Marquis.
Ah, ça m'attriste, ça m'effondre. Et ça, c'est la raison pour laquelle le vaccin, qui fait partie de la solution, n'est pas la solution. Parce qu'il y a eu une époque, quand on a éradiqué la polio, puis qu'on a éradiqué la variole, là, c'était facile. Tu disais aux gens, mettez-vous en ligne, t'es vacciné toute la gang, bing, badang, boum, boum. Ça te prenait le temps de vacciner tout le monde, puis c'était fait. Cette conjoncture-là sociale n'existe plus. Et là, il va toujours avoir des gens que pour toutes sortes de raisons que je déplore vont croire que le vaccin va les tuer. Et donc, ça va créer, il va avoir une poche de résistance parce que le virus va toujours se cacher dans ces gens-là. Et donc, oui, faisons-nous vacciner ceux qui auront compris que c'est une bonne idée, mais ça ne va pas éradiquer la COVID. On ne peut pas penser qu'on va éradiquer la COVID comme on a éradiqué la variole à cause de ces gens-là qui vont maintenir une population virale vivante.
Non, ça, c'est très important ce que tu viens de dire. Là. Mm-hmm. Ce que tu viens de dire, c'est que cette minorité qui soit n'ira pas se faire vacciner tout de suite ou soit n'ira jamais se faire vacciner va garder le virus vivant dans la communauté.
Exactement. Il va faire qu'on pourra probablement jamais vraiment s'en débarrasser. À la limite, ceux qui sont un peu craintifs puis qui disent « je veux pas prendre la première dose de vaccin », honnêtement, ça me dérange moins. La raison pour ça, c'est qu'il n'y aura jamais 8 milliards de doses de disponibles la même journée. Donc, il va falloir vacciner par vague. Que ces gens-là disent « je ne veux pas être dans la première vague », honnêtement, ce n'est pas un gros problème. Parce que quand on va être rendu à eux autres, il va y avoir eu des millions et des milliards de personnes de vacciner, puis ils vont comprendre que ce n'est pas dangereux, ça sera rendu leur tour. Ce qui m'inquiète, c'est les irréductibles. Et ces irréductibles-là vont prendre des décisions pour leurs enfants. Et ces enfants-là pourraient, parce que la roue tourne, puis qu'un jour, ils vont avoir 16, 17, 18, 19 ans, attraper une maladie mortelle. Et ça, ce discours-là, on peut l'étendre à toutes les maladies de la jeune enfance qu'on peut vacciner.
Ben, c'est ça.
C'est un problème majeur de société.
Combien ça en prend, François? Qu'est-ce que dit la science? Ça prend quel pourcentage d'une population vaccinée pour neutraliser, pas le faire disparaître, mais neutraliser la propagation du virus puis faire reculer, dans le fond, le niveau, le taux d'infection?
Pratico-pratique, plus c'est élevé, mieux c'est. Si je me rappelle bien, j'ai peur de me faire tirer des roches par des épidémiologiques, je pense que le minimum, c'est autour de 87-90%, quelque chose comme ça. Et le danger avec la fameuse immunité du troupeau, c'est que si à l'intérieur du groupe, il y a une petite poche locale, un groupe, une ville, une grosse famille, peu importe, qui géographiquement vivent dans un endroit qui sont pas vaccinés, ça change tous les chiffres. C'est que ça, ces chiffres-là existent pour une population homogène aléatoire. Dès qu'on a un sous-groupe qui décide que eux autres sont des irréductibles, un peu comme nos Gaulois, ça change tous les chiffres. Donc, la réponse simple, c'est plus on est vacciné, mieux c'est.
Est-ce qu'il y a des pays ou des sociétés qui ont rendu la vaccination obligatoire? Puis est-ce que ça a fonctionné?
Que je le sache, non. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais dans les grandes sociétés, pas depuis les grandes campagnes de vaccination contre la variole puis tout ça, il y a eu des campagnes publicitaires, mais qui l'ont obligé. Je sais qu'il y avait eu au Québec, quand il y avait eu l'épidémie de méningite, on avait obligé tous les enfants à se faire vacciner et ceux qui avaient refusé avaient été obligés de retirer leurs enfants des écoles. Mais à ce que je sache, c'est pas comme la tuberculose qui est une maladie à traitement obligatoire. Je crois pas qu'il y a des maladies à vaccination obligatoire. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Je pense que les derniers cas, honnêtement, c'était la variole puis la polio. Là.
Très bien. Merci beaucoup. François, je sais que je dois te laisser aller. Puisque tu as du travail à faire, tu dois aller t'occuper des patients. Je te remercie pour l'entrevue, puis on se reparle un peu plus tard dans les jours, les semaines qui viennent. Je sais qu'on aura d'autres occasions.
Ça me fera plaisir. Bye.
Salut, bye. Alors, je vous pose la question, 790-9850, 98985 par texto, Drainville à commercial 985FM.ca. Lorsque le vaccin sera disponible, est-ce que vous irez vous faire vacciner? Puis si vous êtes dans la colonne des « non, j'irai pas », vous pouvez m'appeler, je suis curieux de connaître la raison. Luc Lavoie, bonjour.
Salut Bernard.
Toi, est-ce que tu iras te faire vacciner quand le vaccin sera disponible?
Je vais tout faire pour être parmi les premiers, ça c'est sûr. Et je comprends pas du tout la réflexion de ceux là qui... Écoute, je lisais ce sondage-là, Bernard, puis il y a des affaires qui me font dresser les cheveux sur la tête. 18% des Québécois, ça fait 1,5 million, un peu plus, non? 18% des Québécois croient savoir que la maladie a été créée par les gouvernements pour nous contrôler. Ben voyons, quand je lis ça, Bernard, j'ai envie de pleurer. Il y a 1,5 million de Québécois qui croient ça.
Ben c'est ça, c'est écoute, c'est 1 sur 5. C'est ça que Christian Page nous disait hier. Christian Page nous disait hier, 1 sur 5, 1 sur 4 même, des fois, là, ouais.
35% croient que les médias traditionnels, ça c'est toi et moi, là, répandent de fausses nouvelles sur la COVID-19. Mais d'où ça vient, ça? Qui a dit ça? Hein? Quelle fausse nouvelle est-ce que les médias traditionnels dont nous sommes, toi et moi, qu'est-ce qu'on a répandu de faux? C'est pas possible. Comment ils arrivent à ça?
Je reçois des textos pendant que tu parles. Vous êtes tous des menteurs. Drainville... Femme, ta gueule. T'es tellement malhonnête, Drainville. Écoute, ils sont... Dès que tu parles de la COVID, là, le 20% dont tu parles, là, eux autres, ils commencent à te bombarder de messages.
Mais c'est une maladie, hein? C'est une autre forme de maladie. Le virus...
Je suis pas sûr qu'il y ait un vaccin contre celle-là. Moi.
Ouais, celle-là, mais il y a un virus là qui est en mutation. Il est en train de rendre les gens capotés. Je sais pas c'est quoi. Tu sais, par exemple, là, je regarde aux États-Unis, Bernard, un sondage semblable. Un tiers des Américains refuseraient de se faire vacciner. T'as pensé à ça? Un tiers des Américains refuseraient de se faire vacciner.
Ils n'arriveront pas à s'en débarrasser du maudit virus, là.
Alors, il y a même le Brookings Institution, là, qui était une espèce de think tank américain très prestigieux.
Exact.
Robert Lighton de la Brookings Institution propose d'offrir 1 000 $ à chaque personne qui accepte de recevoir le vaccin. Selon lui, c'est la seule façon d'atteindre le seuil d'immunité collective. Sais-tu combien ça coûterait pour vacciner 80% des Américains à qui on donnerait 1 000 $? 275 milliards de dollars.
Est-ce que dans ton article, là, il parle du pourcentage de la population qui doit être vaccinée pour atteindre le seuil d'immunité? Excuse-moi, j'avais du son dans l'oreille.
Oui, effectivement, il parle de 80%.
80%?
Alors que moi, ce que je lis dans d'autres articles, c'est que le seuil que les scientifiques... Enfin, il y a un consensus autour du chiffre 70%.
Non, OK.
Mais regarde, on commence au Québec, là, il y en a 15% qui disent c'est non.
Jamais.
Jamais. 35% qui attendraient un peu.
Ouais, ben, ouais.
Mais voyons donc,
ça
Bernard...
Ça fait 50, comment, ça. Ça fait 50.
comment on arrive à des pareils raisonnements? Écoute, c'est pas une vie normale, même présentement, où c'est beaucoup plus relax que ça l'était au mois de mai, au mois de juin.
Oui, mais attends, là.
Mais regarde, là, moi, j'ai hâte d'être vacciné parce que je veux plus avoir à me préoccuper, puis regarder une poignée de porte, puis me demander si je peux y toucher, puis m'approcher d'un ascenseur, puis prendre ma clé pour peser sur le plancher, où je, l'étage où je vais. Toutes ces affaires.
Puis t'as le goût de voir tes petits-enfants, puis pas être à risque.
Ben oui, puis t'as le goût de voir tes amis, puis de leur faire la collade comme autrefois.
C'est ça.
Puis t'as hâte de faire la bise à tes enfants.
C'est clair.
Mais c'est qui ces gens-là, Bernard? Où est-ce qu'on les trouve? Peux-tu m'expliquer ça?
Il y en a peut-être qui vont nous appeler. Luc, les lignes sont pleines. On va se reparler un peu plus tard, OK? On écoute la tribune, on va voir. Là, j'ai des appels en masse, OK? On se reparle.
OK, bye.
Daniel, bonjour, vous êtes là?
Oui, bonjour, ça va bien?
Très, très bien. Vous, est-ce que vous faites partie de ceux qui vont aller se faire vacciner dès qu'il sera disponible?
Ben moi, j'ai quand même une très haute confiance au système de santé québécois et canadien. Et s'ils nous disent qu'il y a un vaccin qui fonctionne et qui est approuvé, certainement que je vais y aller. Mais l'affaire qui est plate d'ici à ce temps-là, il y a des méthodes pour éliminer le COVID-19. Moi, je connais une entreprise qui s'appelle le Coronavirus Canada Décontamination. Ils font de la décontamination du COVID-19.
Et alors?
C'est ça. En attendant qu'il y ait un vaccin qui sorte, il y a des options au lieu de juste se laver les mains, porter le masque.
D'accord.
On m'a apporté cette information-là, puis je suis allé voir, là, c'était vraiment génial.
D'accord, Daniel, merci beaucoup pour l'appel. Joanne, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous?
Moi, je suis contre juste par principe personnel, vraiment. C'est pas question de religion, ni d'extraterrestre, ni de tout ça. Moi, j'ai 63 ans, j'étais en parfaite santé, j'ai jamais eu de dossier médical de ma vie, sauf l'an passé, on m'a annoncé un cancer du sein. Donc, j'ai fait toute la panoplie de chimio et tout, puis je suis serveuse, donc service à clientèle.
Ben oui.
On m'a avisé déjà que, bon, ton système immunitaire peut être faible, attention, pas pogner de rhume, tout ça. Et puis, moi, j'ai travaillé tous les jours que j'ai eu ma chimio. J'ai jamais rien eu. Et même le vaccin de la grippe, j'ai jamais eu ça de ma vie. La dernière fois, peut-être que j'ai eu un rhume, c'est peut-être là 30 ans. Peut-être que je suis miraculée, je sais pas. Mais c'est pour vous dire que moi, je crois pas à ça.
Vous ne croyez pas au vaccin, Joanne? Vous ne croyez pas au vaccin?
Non. Sur le comment qu'il l'appelle. Aujourd'hui, comme c'était qui dont vous parliez avec M. Mark Hamilton qui disait peut-être que plus tard il va s'appeler Corona 20, tu sais, puis moi je pars ça arrive, bon. J'attends mon autobus pendant ce temps.
Mais Joanne, on a compris. Merci. Joanne, ne crois pas au vaccin. Qu'est-ce que tu veux? Joe, bonjour.
Oui, bonjour. Ben écoutez, moi je suis voyageur, donc oui, je me suis fait vacciner. Je j'accepte les vaccins. Je pense que j'attendrai un peu, par contre, quand le vaccin sera sorti, parce que je vois un peu ce qui se passe. Par contre, si le corps médical se fait vacciner, toutes les infirmières, les médecins acceptent le vaccin, je vois pas pourquoi on aurait un problème à l'accepter. Par contre, je serais entièrement contre une quelconque forme de discussion, comme on voit en Australie, où on parle de peut-être légiférer à obliger que les gens soient vaccinés. On n'a pas le droit de forcer quelqu'un à se soigner, on n'a pas le droit de forcer quelqu'un à accepter une aiguille, ça je serais entièrement contre. Je pense que en étant vacciné moi-même, je suis protégé par rapport à ceux qui n'ont pas été vaccinés, ça c'est un. Puis deuxièmement, ça serait comme obliger des sans-abri à vivre quelque part ou obliger. C'est comme il faut accepter une forme de désillusion ou de, je veux pas être méchant, mais de peut-être maladie mentale de certaines personnes qui refusent d'être vaccinées. On peut pas forcer le monde à accepter tel ou tel traitement, même si c'est pour le bien commun, parce qu'on va juste voir de la désobéissance civile, on va voir des gens... Ça va être le bordel. Il faut que nous acceptions le vaccin, qu'on soit la majorité à l'accepter et à vivre avec les conséquences de gens qui refusent quelconque aiguille.
D'accord, Joe. J'ai beaucoup de textos. Aline, par exemple, qui me dit, aussitôt qu'il y aura un vaccin approuvé par Santé Canada, je vais me faire vacciner. Quelqu'un me dit, certainement que je vais me faire vacciner. Quelqu'un d'autre me dit, attendez un petit peu, là, je trouvais ça intéressant. Ah oui, quelqu'un disait, pas de vaccin, on te retire ta carte d'assurance maladie. Ouais, moi, je trouve ça un petit peu radical, pas mal même. Mais tu vois qu'il y en a dans la population qui commencent à être un petit peu agacés par les anti-vaccins, là. Christian, bonjour.
Oui, bonjour, ça va bien?
Très, très bien, on vous écoute, là.
Oui, donc, moi, je suis vacciné pour les autres, poliomyélite, variole, tous les autres, mais... Le problème, c'est les gens qui veulent pas se vacciner, c'est une question de confiance en gouvernement, confiance dans les compagnies pharmaceutiques, parce que dans les derniers 20 ans, c'est beaucoup de situations et des médicaments, des vaccins qui ont été sur le marché qui ont tué des gens à cause de la corruption.
Ouais. Alors, Christian, donc, vous, est-ce que vous me dites, vous n'êtes pas donc, anti-vaccin, mais vous ne vous ferez jamais vacciner?
Non. Moi, si le gouvernement et le gouvernement canadien qui est corrompu, SNC-Lavalin, oui, oh, Winnie et
Christian,
tous les autres,
Christian.
Il me donne un papier qui me dit que s'il y a des conséquences négatives, ouais, à ce vaccin, il me dit il n'y a pas besoin d'aller te juger avec la compagnie pharmaceutique, on va te compenser.
Ouais,
parce que je ne veux pas avoir des séquelles.
D'accord.
C'est pas une sclérose.
D'accord. Ouais, alors, Christian, vous l'aurez compris, fait partie du camp qui ne croit pas au vaccin, puis qui croit que le pays est corrompu. En terminant, Annie qui me dit, moi, je fais partie des gens qui ne seront pas vaccinés au début et ce sera long avant que je le fasse. Ce n'est pas parce que je suis anti-vaccin, c'est qu'on ne connaît pas les effets secondaires à moyen et à long terme. Bonne journée. Alors, en espérant qu'on pourra vous rassurer, vous convaincre que le vaccin est sécuritaire et que vous irez vous faire vacciner, Annie, lorsque le vaccin sera disponible. OK, on s'arrête au retour. Des bonnes nouvelles pour les étudiants. Pré-bourse, pour s'assurer que la COVID ne diminue pas la réussite scolaire puis que ça n'encourage pas le décrochage. Dans un instant.